Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau salon du livre psy. Donc, le thème que nous allons avoir maintenant est comprendre nos tabous pour les dépasser avec Madame Chantal Calatayud, directrice de publication de Psychanalyse Magazine et de Jeux Magazine, psychanalyste, art-thérapeute, auteur. Madame Xavier Santoni, psychanalyste, psychogénéalogiste, et le docteur André Cheras, gynécologue obstétricien, chef de service de maternité et directeur de planification. Je laisse la parole à Madame Chantal Calatayud.
Voilà, donc nous vous remercions déjà d'être là. Je le fais au titre de l'équipe de Psychanalyse Magazine et de Je Magazine, puisque pour nous ça constitue un lien important. Et puis merci quand même de votre confiance. Alors on va essayer ensemble de parler des tabous. Alors on a trouvé qu'il serait peut-être intéressant effectivement qu'il y ait un éclairage à la fois médical et à la fois psychanalytique. En général, nous apprécions les questions. Nous avons essayé de faire un rail de façon à ce qu'il y ait un minimum de structure, mais les questions peuvent tout à fait nous aider. Donc nous avons choisi de faire une présentation relativement sommaire de ce que peut être le tabou sous l'angle analytique. Alors, je vais essayer de le faire de façon extrêmement schématique, à savoir que l'être humain est soumis à trois zones érogènes, la zone orale, la zone anale et la zone génitale. Lorsque l'enfant découvre le plaisir par une pulsion orale ou par une pulsion anale, il est bien évident que ça ne lui pose pas de problème, tout aussi petit soit-il, même s'il s'agit déjà du champ fantasmatique, dans la mesure où il capte très vite que la mère peut être satisfaite ou non, s'il a bien tété, s'il a mal tété, s'il a bien déféqué ou s'il a mal déféqué. Se joue déjà là l'ampleur de tout ce que l'on va appeler effectivement la sphère de plaisir, la confusion entre plaisir et besoin, mais ce deal reste relativement cohérent dans l'évolution du petit homme, dans la mesure où un enfant qui ne mangerait pas ou un enfant qui ne déféquerait pas, donc bien sûr, serait condamné à mourir. Deux zones qui sont soumises à pulsions d'autoconservation, oralité, analité, mais où le bas va blesser, c'est au niveau de la zone génitale, puisque l'être humain peut tout à fait vivre sans faire l'amour ou sans procréer. Donc les tabous sont une sorte de complexe, c'est-à-dire une sorte d'opposition entre le plaisir et le besoin sur des confusions qu'on va d'ailleurs appeler génitales, puisque l'inconscient à ce moment-là va se trouver en but à une libido, donc dans le sens de plaisir, qui n'a pas véritablement justification à s'exprimer. S'ajoute au profil dit tabouisé très souvent une éducation qui peut être psychorigide, c'est-à-dire que si la mère et le père envisagent l'interdit de façon tout à fait décalée par rapport à une réalité, c'est-à-dire que si le non NON intervient trop tôt ou trop tard, même dans une attitude tout à fait simple chez l'enfant, il est bien évident que déjà ça va pervertir sa possible permissivité quant à une prise de plaisir au niveau génital. Donc on voit que les choses se sédimentent assez tôt, c'est-à-dire dans les 6 premières années de la vie, grand maximum, et c'est ce qui va faire effectivement que l'on va avoir ensuite éventuellement donc des interdits liés au niveau du plaisir et notamment sexuel. Ces interdits sont d'ailleurs plus, comme je viens de l'induire, mis en place de façon psychosexuelle que sexuelle. Ce n'est pas la sexualité telle qu'on peut l'entendre, bien sûr, au niveau d'un plaisir quotidien. On verra, enfin on va essayer de voir ensemble que ça peut toucher jusqu'à la névrose d'échec, c'est-à-dire des comportements de résistance qui sont tout à fait illogiques, pris bien sûr de façon consciente, et là aussi c'est la place de la psychanalyse. Voilà donc ce que l'on pourrait dire de façon très simple de la mise en place du tabou. Et j'avais envie de demander au docteur Cheras de quelle façon la médecine envisage le tabou. Et la question qui m'était venue en y réfléchissant, après 35 années d'expérience, donc de terrain en gynécologie, en obstétrique, il trouvait que la jeune femme avait modifié ses comportements s'il la trouvait plus à l'aise, ne serait-ce que sur une consultation dite de routine, puisqu'en fait, on parle beaucoup de libération des mœurs. Il est vrai, bon, je pense que Xavier Santoni nous l'expliquera au travers d'un cas concret, il est vrai que nous avons l'impression, nous, en tant que psychanalystes, que les résistances restent toujours aussi importantes et que cela pourrait aussi reposer sur des schémas donc transgénérationnels, archaïques, sur des filiations, effectivement, qui vont retirer un certain bénéfice à tabouiser donc la relation psychosexuelle.
Merci. Oui, bon, c'est... Oui, c'est difficile peut-être d'aborder, on vous l'a dit, moi je n'ai rien préparé, effectivement, sur un vécu hein, de praticien, les tabous peuvent se voir chez nous à deux niveaux, d'abord au niveau des consultations simplement, hein, puisque voyant des femmes, et c'est vrai que l'attitude de ces femmes aurait pu se modifier au fur et à mesure du temps qui a passé, par rapport à notre société maintenant, par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Le deuxième élément où on peut le remarquer, c'est au niveau de la consultation proprement dite, c'est-à-dire sur ce que les femmes vont exprimer de façon spontanée ou ce qui va jaillir en fait au cours de la consultation, éventuellement orientée par le médecin, mais où un certain nombre d'éléments vont ressortir. Au niveau d'abord de la consultation proprement dite, du déroulement de la consultation, c'est vrai que, alors ce que disait Mme Calatayud, les mœurs sont quand même beaucoup plus libres actuellement qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. En réalité, dans les consultations, on ne voit pas une très grosse modification du comportement des femmes en consultation de gynécologie. Aussi bien sur le plan de se dévêtir, sur le plan des positions qui ne sont pas des positions très agréables pour les femmes. Et c'est vrai que même sur des filles jeunes, très jeunes, en planification ou autre, autant bien sûr parfois on a une grande liberté, autant très souvent on ne voit pas, et je ne vois pas au moins une très grosse différence par rapport à il y a même plusieurs dizaines d'années. Donc il y a sûrement un certain nombre d'éléments qui ne se sont pas modifiés à ce niveau-là. Au niveau des consultations proprement dites, du contenu des consultations, là aussi très souvent, tout ce qui concerne la sexualité de couple en particulier, on se rend compte que les motifs de consultation sont souvent différents. C'est-à-dire qu'au départ, les femmes viennent pour un problème, et c'est en cours de consultation, en réalité, que va ressortir le problème de la sexualité. Et les femmes gardent toujours, peut-être un peu moins maintenant, mais le gardent toujours, gardent cette difficulté à venir en présentant le motif de consultation d'emblée comme ce problème de sexualité. Et ce n'est souvent qu'à travers des prétextes de douleur, de troubles de règles, etc., que l'on voit apparaître et que se révèle souvent en fin de consultation d'ailleurs, où la consultation repart en fait sur des bases complètement différentes, des problèmes qu'elles n'ont pas osé aborder avant. Ce qui fait que sur un plan du gynéco-praticien, donc pur, je vois peu de différence dans les consultations que je fais actuellement par rapport aux consultations que je faisais il y a une trentaine d'années. Il est plus facile pour le médecin d'en parler, les gens le reçoivent beaucoup plus facilement, mais disons que ce qui vient de la part des femmes, aussi bien dans leur attitude pour la consultation ou que dans ce qu'elles expriment au cours de la consultation et des motifs, je ne vois pas une très très grosse différence avec le temps qui a passé. Ça, c'est simplement donc une réflexion de praticien de terrain.
Mais alors pour illustrer les choses de façon peut-être un petit peu plus analytique à nouveau, Xavier Santoni a choisi de parler du cas Emmanuel.
Oui, alors c'est vrai que j'ai pensé au cas là, d'une de mes patientes concernant donc avec ce lien avec les tabous, qui se prénomme Emmanuel. Alors en fait, cette jeune femme qui a 27 ans est arrivée en consultation pour, on va dire, pour des raisons affectives. Bon, c'est une jeune femme qui socialement a sa place, mais qui affectivement a quelques difficultés, en ce sens que bon, c'est une jeune femme qui est seule, qui a beaucoup de difficultés à rencontrer donc des jeunes gens de son âge. Et lorsque ça a lieu, ce sont des relations très brèves qui durent juste quelques jours. Et ce qui fait que donc elle se retrouve, on va dire, affectivement seule, avec toute la souffrance que ça peut engendrer. Alors, j'ai trouvé que compte tenu de son prénom, ça pouvait paraître, voire même très, très paradoxal, parce que c'est vrai qu'Emmanuel, en plus avec l'âge, avec ses 27 ans, bon, Emmanuel fait penser évidemment à ce célèbre film qu'il y a eu dans les années 70. Et c'est là où on voit tout l'impact en fait du choix d'un prénom, on va dire au niveau de l'inconscient, à savoir que pour un inconscient, en fait, si les parents donc ont choisi ce prénom, c'est qu'a priori ils l'aiment. Hein, bon, enfin, c'est, en général, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc l'inconscient va fantasmer en fait que les parents attendent de lui en quelque sorte qu'il représente au mieux ce prénom. Alors, il est bien sûr que dans le choix d'Emmanuel, on peut tout à fait imaginer que l'inconscient de cette jeune femme est donc fantasmé, que l'on attendait d'elle, donc qu'elle soit une sorte d'Emmanuel. Alors, c'est d'autant plus étonnant, c'est que au conscient, c'est une jeune femme qui est, on va dire, qui est très classique, qui n'a rien de provoquant, qui est... j'ai même envie de dire pas tellement moderne. On sent qu'elle est très réservée, très raisonnable dans toutes ses attitudes, et en fait ça c'est au conscient, mais son inconscient lui en fait a engrammé, eh bien, on va dire, l'Emmanuel tel qu'elle a donc été véhiculée au travers de ce film, et ce qui fait que en fait elle attire justement des hommes qui vont la considérer pour des relations de très courte durée, et essentiellement au niveau de la sexualité. Chaque fois, c'est la situation face à laquelle elle se trouve, où elle n'intéresse que dans la relation physique et pas du tout au niveau, on va dire, intellectuel. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important d'un point de vue... ne serait-ce d'un point de vue psychogénéalogique, où on voit tout l'impact du choix d'un prénom sur la vie et les modes de fonctionnement de quelqu'un. Et on peut même aller un petit peu plus loin au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau phonétique, au niveau des phonèmes qui sont dans ce prénom d'Emmanuel, à savoir que dans ce prénom d'Emmanuel, il y a des phonèmes comme celui effectivement de nu, qui est très évocateur. Dans Emmanuel, il y a également, bon, il y a man, on peut dire l'homme en anglais, donc l'homme avec face à cette femme qui se dénude. Et en fait, on peut même dire que très certainement, à l'époque où le film a été tourné, on va dire que le réalisateur ait pu d'ailleurs de façon très inconsciente choisir ce prénom compte tenu des phonèmes qu'il contient. Alors, il y a toutes sortes d'interactions, en ce sens que dans le travail donc, de cette jeune femme, son travail analytique, en fait, elle a permis qu'il soit mis en évidence que sa mère avait idéalisé l'actrice Romy Schneider, et que donc, en fait, le choix du prénom aussi en avait fait partie, très certainement que la mère aurait aimé elle-même être actrice, et qui donc, en fait, elle a projeté sur sa fille ce qu'elle-même n'a pas pu réaliser, mais bon, pas dans n'importe quel choix. Et c'est vrai que, bon, être actrice, eh bien, c'est... on pourrait dire, c'est bon, oui, c'est vrai que c'est faire, effectivement, c'est faire du cinéma, c'est-à-dire c'est ne pas être dans un rôle, enfin, c'est ne pas véritablement vivre sa vie. Lorsqu'on dit que quelqu'un fait du cinéma, c'est quelqu'un qui fait semblant, en quelque sorte. Et c'est tout à fait ce que manifeste cette jeune femme, qui en fait ne vit pas véritablement sa vie. Elle est comme ça dans des rôles, mais qui ne lui correspondent pas en tant qu'elle-même. Voilà, donc j'ai trouvé que ce cas était intéressant, en lien donc effectivement avec les tabous, où en fait, bon, cette jeune femme, il y a toute cette contradiction, on va dire, entre ce qu'elle souhaite au conscient et en fait ce qu'il se passe compte tenu de la perception inconsciente qu'elle a de son prénom. Voilà, je crois que c'est surtout ce qui m'est venu donc à l'esprit comme exemple.
Sur un plan médical, la dyspareunie et le vaginisme, pour nous, c'est des choses quand même qui sont différentes. La dyspareunie, c'est un, c'est un motif pour lequel les femmes vont pouvoir venir consulter. La dyspareunie, c'est quelque chose que va exprimer la femme sous la forme d'une gêne plus ou moins douloureuse, une douleur à la pénétration ou au rapport. C'est donc quelque chose dont elle nous informe. Je souffre de, j'ai mal pendant les rapports, j'ai une douleur à tel endroit, etc. Donc pour nous, c'est quelque chose de subjectif qui est décrit par la patiente qui vient consulter. Et à ce moment-là, l'examen médical va chercher à mettre en évidence un élément objectif, c'est-à-dire cette gêne à la pénétration, cette douleur, est-ce qu'elle est due à une lésion gynécologique vraie, est-ce qu'elle est due à une lésion superficielle, elle peut être due à une tumeur. Il y a énormément d'éléments qui vont pouvoir jouer dans cette dyspareunie, mais dans un premier temps pour nous la dyspareunie, c'est quand même un symptôme dont se plaint la patiente pour lequel on va rechercher une cause organique. Le vaginisme, lui, c'est un peu différent, en ce sens que pour nous, au départ, le vaginisme apparaît plus comme c'est un état anatomique, une contracture anatomique, qui peut donc être objectivée au cours de l'examen, alors que la dyspareunie, on demandera souvent à la personne si elle a mal pendant qu'on l'examine, à tel ou tel endroit. Donc il y a là non plus un symptôme subjectif décrit par la patiente, mais un élément objectif en cours d'examen de contracture musculaire au niveau de ses releveurs ou autres qui va empêcher toute pénétration. Et là, très souvent, le praticien, le gynécologue, s'orientera plus vers un élément. Souvent, l'examen d'ailleurs est très difficile, puisque l'examen gynécologique par lui-même est impossible en général. On est aidé actuellement par les techniques d'imagerie ou autres pour éliminer quand même un facteur organique. Mais la plupart du temps, le vaginisme pour nous va être synonyme de conflits psychologiques. Et c'est dans ce sens, la plupart du temps, que l'on va orienter la consultation. Et c'est à partir de là que l'on aura pratiquement toujours recours dans le cas d'une consultation avec constatation d'un vaginisme. Bon, parfois d'ailleurs la femme pourrait très bien ne pas se plaindre. C'est une découverte d'examen au moment où on veut examiner la patiente. Et à ce moment-là, on orientera nos patientes vers des thérapeutes au niveau psychique dans un premier temps. Donc pour nous, une grosse différence, la dyspareunie débouche pour nous dans une recherche d'une cause organique d'abord et avant tout, et éventuellement en cas d'absence de cause organique, on pensera plus au facteur psychologique qui peut être là aussi bien sûr très souvent en cause, et dans le vaginisme, qui est un état objectif anatomique pour nous, on s'orientera d'emblée plutôt plus vers le facteur psychologique que vers un facteur organique. Quant à la question que vous posiez, c'était...
Peut-on parler médicalement d'interdit ?
Peut-on parler médicalement d'interdit dans le cadre du vaginisme ? Sûrement, mais malheureusement, la formation des gynécologues obstétriciens n'est pas toujours très très bien faite sur le plan des maladies du psychisme, et c'est vrai que pour nous, si on se dit donc derrière et si on interroge un peu ces personnes, elles ont souvent un profil qui nous met en évidence effectivement que le vaginisme va être la conséquence d'interdits multiples ou de vécus antérieurs. Il est bien évident que la plupart du temps, le gynécologue praticien ne sera pas en mesure de faire une prise en charge correcte à ce niveau-là et on transférera nos patientes sur des spécialistes du psychisme. Et il faut, je crois, prendre en charge que des choses que l'on sait bien traiter.
Oui, alors ça me permet de faire, ce que vous dites me permet de faire un lien. Il est bien évident que pour la psychanalyse, le pourquoi, peut-être ce dont vous venez de parler, reste quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour permettre de mener des cures de façon qualitative, bien sûr dans le cadre de notre spécificité aussi professionnelle. Donc ce qui nous intéresse, c'est toujours le comment. Effectivement, quand un médecin a la gentillesse de nous envoyer ce type de patiente, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau donc, de cette lutte inconsciente à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et donc Freud a nommé complexe, c'est-à-dire une lutte entre des pulsions de plaisir débridées et des interdits. De façon très rapide et surtout pour vous permettre bien sûr de poser les questions que vous désirez nous poser, j'ai pensé à une de mes patientes, Sonia, qui chaque fois qu'elle doit se diriger à un entretien d'embauche, en fait met en place des scénarios catastrophes, c'est-à-dire que ça peut aller de la cheville qu'elle se foule à l'accrochage de voiture, etc. Et en fait, on retrouve dans son histoire des attouchements. Donc, c'est vrai qu'elle est, elle est aptophobe, et même un contact qui se voudrait oral va faire qu'elle va partir à reculons, et son inconscient donc va mettre en place des stratégies de façon à ne pas prendre le moindre risque d'un contact qui pourrait la perturber et réveiller bien sûr une douleur, une faille, donc un point de fixation. Alors, je crois que Xavier, vous aviez aussi, vous, l'exemple de Michel.
Oui, l'exemple de... Alors, en fait, Michel est un homme donc, qui est avocat et qui est amené à défendre donc une jeune femme qui est prostituée. Alors, bon, Michel est un homme tout à fait compétent, on va dire, dans sa profession. Et néanmoins, là, bon, il perd ce procès sur quelque chose qui, on va dire, sur un sujet qu'il est habitué à traiter. Et en fait, là aussi, on retrouve dans l'histoire de cet homme le fait que sa mère avait été une femme infidèle. Alors là aussi, bon, qu'il l'ait su ou qu'il ne l'ait pas su, mais enfin, le plus souvent, ça reste un processus très inconscient. On voit qu'effectivement, ça va mettre en place une résistance liée à cet aspect de très tabouisé, surtout là, d'autant plus dans une relation, on va dire, à la mère, et où en fait, bon, même en déployant tout son savoir-faire au niveau professionnel, néanmoins, il y a une telle résistance qui va se mettre en place que le procès ne pourra pas être gagné. Voilà, je trouve que là, c'est un exemple effectivement qui illustre assez bien la façon dont les choses peuvent se passer.
Alors, Joël Fabretti vient de me dire que le temps de parole qui nous était imparti s'est écoulé. Nous espérons vous avoir donné suffisamment de matériel, donc bien que nous soyons conscients que ça reste très succinct, de façon à ce que vous puissiez nous poser les questions donc, qui vous intéressent, bien sûr. C'est toujours la première question qui pose problème, puis après on n'a jamais assez de temps en général.
Non, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous nous posiez des questions, même si vous avez des questions qui vous viennent d'un autre registre. Hein. Ça nous soutient aussi dans nos axes de réflexion, que ce soit professionnellement ou au niveau des revues, c'est toujours très important pour nous. Il n'y a pas de première question. Alors, moi, je voudrais vous en poser une. Est-ce que vous aviez envisagé le tabou de la sorte? Est-ce que, bon, le tabou a une connotation religieuse?
Nous sommes bien l'esprit comme ça. Tout à l'heure, on a parlé du cas d'Emmanuel. Et moi, en parallèle avec le fait que ça se rapporte au film, il y a Sœur Emmanuel. Moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre les deux tout le temps en parallèle. Il y a l'un et l'autre qui viennent en même temps. Et j'entends vous parler aussi.
Oui, alors on voit effectivement aussi toute cette ambivalence qu'on va retrouver donc en permanence, mais tout particulièrement au niveau du prénom, c'est-à-dire c'est effectivement à la fois, si vous voulez, la connotation qui est donnée au conscient, mais la façon dont l'inconscient l'aura perçu. Là, je comprends ce que vous dites, mais oui, effectivement, c'est... En fait, tout va dépendre aussi, c'est peut-être là où on rejoint la psychogénéalogie, c'est-à-dire que tout va dépendre également d'une éducation, tout va dépendre du contexte dans lequel, on va dire, l'individu a grandi. Pour vous, dans votre histoire, bon, a priori, ça, effectivement, ça fait davantage allusion, on va dire, à un aspect religieux, et qui peut, bon, effectivement, apporter au prénom quelque chose de d'autant plus, on va dire, tabouisé. Alors que l'exemple, moi, de cette patiente, c'était où elle, on avait vu qu'en fait, le prénom lui avait été donné sous une autre forme. Disons que peut-être que vous, si vous aviez d'appeler un enfant Emmanuel, vous l'appelleriez Emmanuel en pensant à Sœur Emmanuel. Ou à ce moment-là, ça donnerait à l'inconscient de cet enfant une, on va dire, une perception différente du prénom. Après, l'histoire de chacun va intervenir dans, effectivement, dans la façon dont l'individu va porter le prénom. Sinon, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, tous les prénoms auraient tous une seule et unique connotation qui serait valable pour tous ceux ou toutes celles qui vont le porter.
Le cas de la personne que vous avez en consultation, elle c'est consciemment, elle est plutôt Emmanuel bien rangée à l'intérieur.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a reçu, en fait, oui, au conscient, elle a reçu une éducation, on va dire, très tabouisée, qui fait qu'elle a un comportement de jeune femme, on va dire, très, très réservé, qui ne s'inscrit pas, on va dire, dans une légèreté sexuelle telle que celle qu'elle rencontre avec les hommes. Donc les hommes qu'elle croise dans sa vie. Mais parce qu'en fait, inconsciemment, elle est Emmanuel du film, on va dire. Vous voyez ?
Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où on peut avoir aussi quelque chose de beaucoup plus trouble de la part des parents. On l'a vu, c'est une injonction parentale. En fait, l'enfant est soumis à cela. Il n'a pas d'autre choix parce que sinon, il fantasme, il peut perdre l'amour des parents. Mais on peut avoir des parents qui mettent en place des articulations, dit-on dans notre jargon, encore plus pernicieuses, dans la mesure où, effectivement, des parents qui eux-mêmes ont subi un interdit transgénérationnel peuvent tout à fait donner l'illusion de choisir ce prénom Emmanuel pour rentrer dans un schéma extrêmement classique, alors qu'en fait eux-mêmes ont des intentions d'un autre registre. Mais c'est ce que disait Xavier Santoni, c'est-à-dire que c'est valable pour tous les prénoms. Tous les prénoms sont soumis à ambivalence, puisqu'on retrouve dans toute l'histoire, bien sûr, de la littérature, de la science, de la religion bien sûr, des prénoms extrêmement porteurs, mais où on va toujours retrouver le corollaire inversé. Effectivement, c'est peut-être là où se situe notre liberté, où malgré cette espèce donc d'injonction des parents, qu'on va jusqu'à appeler jouissance, hein, selon un jargon lacanien, eh bien, l'enfant a aussi sa propre liberté malgré tout. Il a un espace de liberté. Il est ce qu'il est en fonction de ce qu'il a fantasmé, en fonction de ce qu'il a ressenti, mais il a quand même aussi une possibilité de s'approprier son prénom autrement et de le resituer dans son espace temporel et social de façon malgré tout différente. C'est déjà une façon de se désengager de ces projections libidinales qui peuvent être extrêmement restrictives, bien sûr, à la longue.
Oui, une fois que la personne a pris conscience de tabous, qu'ils ont été conscientisés, localisés, pointés, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que la personne peut faire, car le comprendre ne suffit peut-être pas tout à fait pour qu'elle se libère. C'est assez court peut-être pour répondre à cette question, mais ça serait intéressant de voir si en quelques mots vous pouvez nous éclairer sur ce qu'une personne peut faire quand elle a pris conscience qu'une zone de tabou crée chez elle un blocage, une difficulté, une réticence.
Oui, alors ça c'est un vaste sujet. Justement, en évoquant donc la façon qu'on allait d'avoir à vous proposer donc cette rencontre, je pensais à une de mes patientes qui m'a dit il y a quelques jours, et je disais donc à Xavier Santoni, André Cheras, que c'était pas du tout narcissique de ma part. Justement, je crois que ça reprend tout ce que vous induisiez aussi. Donc c'est une patiente que j'ai depuis relativement peu de temps en analyse. Il se trouve que je l'ai aussi comme élève analyste. Donc il y a aussi des aspects de compréhension qui quand même vont dans le sens d'une évolution un petit peu plus rapide du dénouement des nœuds dits borroméens. Donc elle me disait, elle en faisait le constat, c'est-à-dire qu'elle me disait il y a quelques jours, je n'arrivais plus à faire l'amour avec mon mari et les choses se sont débloquées. Alors elle n'a pas véritablement conscience bien sûr de ce qui s'est fait, ce n'est pas fatalement d'ailleurs demandé à nos patients, beaucoup plus aux élèves bien sûr qu'à nos patients. Alors là, on rentre dans tout le champ, bien sûr, de la méthode analytique, de la méthodologie analytique, en sachant que le patient nous fait confiance. Je pense que c'est peut-être ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, puisqu'ils savent que la méthode met des limites. On n'aurait pas du tout pensé qu'on va avoir des patients qui vont par la suite avoir une sexualité ou des comportements extrêmement discutables qui deviendraient débridés. Pas du tout, puisque l'analyse passe toujours par ce qu'on appelle la loi, justement par les interdits, par l'interdit célèbre du nom du père, là aussi cher à Jacques Lacan. Et en fait, même nous arrivons malgré tout sur le moment à ne pas donner d'explication sur ce pourquoi les choses se sont dénouées à l'instant T. Alors, il est facile de dire quand une analyse se voudrait terminer, c'est pour telle et telle raison que Madame Intel, effectivement, s'est sentie plus à l'aise dans son couple. Bon, ça devient aussi très vite de l'analyse sauvage. À savoir qu'elle m'a malgré tout donné un élément très précis qui était intéressant. Elle n'arrivait plus à supporter son mari physiquement. Alors, il se trouve qu'étant donné qu'il y avait une difficulté sexuelle importante, elle a pris un amant. Alors, cet amant avait pour elle les attributs d'un père, compte tenu de la différence d'âge, une profession très en vue, alors que son époux a une profession plus modeste. Et c'est cette rencontre donc avec ce père, tout ça resitué, ce père fantasmatique, tout ça resitué bien sûr dans son analyse, qui lui a fait prendre conscience véritablement de l'interdit posé par le père des limites, et elle a pu réhabiliter donc une image tout à fait conforme à ses désirs en tant que la personne de son mari. Mais on rentrerait dans un champ là qui d'ailleurs reste aussi individuel, mais il y a quand même cette interaction entre une méthode, une méthodologie, la prise de conscience effectivement du nom de cet interdit qui fait qu'on peut tout à fait ou rencontrer quelqu'un ou envisager un partenaire de façon beaucoup plus réelle que ce que l'égarement de nos fantasmes mettait en place jusque-là. Si ça répond à peu près à vos attentes, à peu près. Mais Xavier peut prendre la suite de la question. Alors, bien sûr, vous avez toujours une cause inconsciente, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir un patient, d'ailleurs, hein, ça ne concerne pas que les femmes, hein, ou une patiente qui est complètement déformée, donc ce qu'on appelle le discours parental, hein, qui n'a rien à voir avec le langage. Mais en fait, dans ce que vous disiez, j'ai complètement perdu du coup ce... Je vais vous demander de reposer la question parce qu'en fait, ça m'avait mis sur une voie qui je trouvais intéressante.
Alors, la question, c'est quand la personne prend conscience de sa zone de tabou.
Voilà. Alors, moi, c'était le quand fait-elle. En fait, quand elle prend conscience de sa zone, de tabou, il y a une chose qui, pour nous, analystes, a priori, bon, s'il y a des analystes dans la salle, ils interviendront peut-être et nous diront peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais a priori, pour nous, analystes, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que très souvent, ça ouvre le champ du désir, mais le désir social, c'est-à-dire que, on le voyait un petit peu tout à l'heure sur des exemples succincts, à savoir que un individu qui a censuré donc cette zone dite génitale est un individu qui censure complètement sa vie, c'est-à-dire qui n'est pas sur une position dite vrai self, qui vit là aussi, il y a des conséquences qui sont énormes, qui vit aussi les désirs non réalisés des parents, c'est-à-dire que ça peut entraîner une place professionnelle, une place sociale qui ne soit pas du tout en adéquation donc avec l'être. Donc l'intérêt d'une zone génitale détabouisée nous fait, nous, analyse, complètement quitter le champ direct de la sphère sexuelle et on assiste progressivement à des patients qui enfin intègrent leur identité, puisque l'identité sociale est en lien direct avec la spécificité du genre, c'est-à-dire bien sûr féminin masculin. Il faut savoir que sur des sujets tabouisés, vous avez une inversion du schéma très souvent, c'est-à-dire que la femme qui devrait être dans une énergie plus passive, très souvent devient une femme phallique et est une femme qui peut avoir une profession pas du tout conforme justement à ses limites, et c'est pas péjoratif, de femme. Bon, je pense que les exemples vous les connaissez tous, et au niveau des hommes aussi, on a des hommes qui deviennent de fait extrêmement féminins et qui n'arrivent pas à développer une amplitude professionnelle ou tout simplement à développer de l'échec. Ça n'a rien à voir, là aussi on le rappelle très souvent, ça n'a rien à voir avec un regard que peut jeter la société sur une réalisation professionnelle. Ce qui nous intéresse en analyse, c'est que le patient nous dise qu'il se sente bien dans la position socio-affective qu'il traverse à l'instant T. Mais donc l'intérêt, si c'est ce que vous me demandiez, l'intérêt à mon sens, et d'un point de vue, je pense, généralement analytique, c'est qu'il y a ensuite la rencontre avec soi, donc avec le self et avec le vrai self. Oui, tout à fait, puisque c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, ce que Freud a appelé les stades prégénitaux, donc qui justement couvrent la sphère orale et la sphère anale, vont être déterminants dans leur façon dont l'inconscient les appréhende, les aborde et les déforme, parce qu'un enfant est complètement immature, bien sûr, c'est une évidence quand il vient au monde, et entre effectivement ce que les parents dits surmoïco-castrateurs ont aussi eu à introjecter. Plus cette propre déformation, il y a des mécanismes de défense qui vont effectivement se cristalliser ensuite dans la zone génitale. Et ce que je disais tout à l'heure, zone bien sûr de procréation, mais de fait, ce que j'ai aussi pas induit en temps et heure, zone de créativité. C'est pour ça qu'on joue sur les deux tableaux, parce que c'est pareil, on pourrait tout à fait voir avoir en consultation une femme ménopausée qui commence un syndrome dépressif marqué, et on va se rendre compte qu'elle a peut-être eu aussi une vie sexuelle globalement acceptable, comme disait Bettelheim, mais en fait, on se rend bien compte que le bas ne blesse pas fatalement dans cette zone-là, c'est-à-dire que cette non-réalisation d'elle-même devient beaucoup plus importante, mais elle va aussi s'autoriser à en parler, puisque justement, elle considère inconsciemment qu'elle n'aura plus à parler donc de cette zone génitale, alors qu'en fait, comme vous le dites, tout est lié.
Très vite, bon, c'est un trop vaste sujet, je crois qu'il est vrai que la naissance d'un enfant change complètement et la concrétisation de la parentalité qui apparaît à ce moment-là, aussi bien dans le couple que pour la mère elle-même, va en fait, pendant une certaine période, sûrement, peut-être pas créer des problèmes, mais faire que la sexualité va un petit peu disparaître en partie juste dans les périodes suivant la naissance de l'enfant pour des raisons purement physiologiques et pratiques. Et ensuite, on voit beaucoup, c'est vrai, on a beaucoup de consultations dans les suites d'accouchement dans les mois qui suivent, avec des problèmes effectivement peut-être sexuels qui se seront aggravés dans cette période-là, mais pour des raisons qui peuvent être multiples, qui peuvent être des problèmes de couple qui seront concrétisés par l'arrivée de l'enfant, qui peuvent être des problèmes de douleurs, c'est-à-dire de choses organiques qui auront pu apparaître également, de problèmes de périnée, de musculation, etc., qui vont aussi intervenir. Également, ça peut être aussi un épanouissement grâce aussi à la contraception, qui va permettre de ne plus avoir la crainte de refaire un enfant tout de suite après. C'est très très complexe. D'une façon habituelle, on a très souvent une période dans les mois qui suivent l'accouchement où on a une plainte assez fréquente de diminution du désir sexuel, de troubles peut-être au niveau des rapports dans le couple dans cette période, mais sur un couple sur une femme qui n'avait pas de problème avant, en général, tout va rentrer dans l'ordre bien. Sur une femme en dehors de problèmes organiques, que là, il faut toujours traiter très rapidement, parce que c'est là, malheureusement, le risque d'avoir progressivement, à partir d'un petit élément organique, on parlait de dyspareunie tout à l'heure, et qui va finalement aboutir à un trouble qui va devenir beaucoup plus grave, et où l'élément psy, entre guillemets, qui va être beaucoup plus difficile à traiter ensuite. Mais en dehors de ce facteur-là, le couple allant bien, en général, retrouvera une très bonne sexualité ensuite. L'apparition de troubles de la sexualité ensuite sont souvent plus dus au fait de l'enfant, c'est-à-dire de vivre à trois, et c'est le changement de vie dans le couple. On n'est plus un couple, mais on est des parents avec un enfant, et je crois que c'est là où les problèmes de sexualité risquent de se développer avec peut-être une mère trop mère et plus assez femme, bien sûr. Mais globalement, je pense qu'un couple ayant une bonne sexualité, si on élimine dans les suites d'un accouchement les facteurs organiques qui pourraient troubler cette sexualité, en général, les choses vont bien se passer après. Et que les problèmes que l'on a la plupart du temps en dehors de troubles organiques sont quand même la révélation de problèmes de couple ou d'un transfert trop important sur l'enfant ou d'un changement de vie aussi sur un plan pécuniaire, etc. ou d'autres facteurs peuvent intervenir qui vont faire que la vie du couple va se sentir perturbée et que ça va retentir bien sûr au niveau de la sexualité. Mais nous, les consultations que moi je peux voir la plupart du temps, les problèmes dans les mois qui suivent, donc très rapidement, on ne peut pas aller trop loin puisqu'après il y a d'autres facteurs trop importants qui jouent, enfin trop divers, mais dans les suites immédiates, en dehors de facteurs organiques qu'on prend très vite en charge, en général la sexualité en particulier, parce que la contraception va quand même aider la reprise de cette sexualité souvent, en général rentre dans l'ordre rapidement. Et il faut beaucoup rassurer les femmes à ce niveau-là. L'allaitement maternel est aussi un facteur de perturbation de la sexualité. Tout à fait. Alors là, au niveau bon, des maris, c'est un lieu commun, c'est vrai, où le mari, c'est toujours ces phrases où on a peur que l'enfant soit trop près, qu'on va traumatiser le fœtus au moment des rapports. Il y a souvent une diminution, pas toujours, hein, loin de là, voire l'inverse, mais on a souvent une diminution, c'est vrai, de la sexualité pendant la grossesse, en dehors de tout problème médical. Et puis il y a des tabous. On rejoint le problème de tout à l'heure. Il y a beaucoup de tabous au niveau de la sexualité pendant la grossesse, alors qu'il n'y a aucun problème pour avoir une sexualité complète, permanente et très active en cours de grossesse, sans aucun risque médical, jusqu'au jour de l'accouchement, hein, et en dehors de cas médicaux, de risques de prématurité, de modifications importantes du col de l'utérus en fin de grossesse, il n'y a aucune raison de limiter, à quelque niveau que ce soit, la sexualité pendant la grossesse. Le facteur hormonal est un facteur qui, pendant la grossesse, peut diminuer la sexualité, atténuer le désir chez la femme. La progestérone, qui est une hormone de la grossesse, a un effet un petit peu négatif sur la libido. On le retrouve dans le règne animal en général, hein, quand une femelle est gravide. Et c'est vrai que la progestérone qu'on utilise en gynécologie, par exemple, dans le cadre de la gynécologie pure, pas dans le cadre de la grossesse, mais pour régulariser des cycles irréguliers, des choses comme ça, on a souvent des impacts négatifs sur la libido, que l'on retrouve aussi un peu par les pilules fortement dosées en progestatif ou avec certaines progestérones. Donc c'est vrai que la sexualité pendant la grossesse, elle relève beaucoup de méconnaissances, de mauvaises informations, de tabous, très peu d'éléments médicaux purs. Il y a également une modification du corps de la femme pendant la grossesse qui peut modifier le désir de l'homme pour la partenaire. Mais je crois que c'est plus souvent, alors là, tout à fait, la mauvaise information peut-être, et les tabous qui font que la sexualité en cours de grossesse va diminuer. Et c'est vrai qu'une mauvaise sexualité pendant la grossesse va faciliter une mauvaise reprise de la sexualité après l'accouchement. Tout à fait d'accord.
Peut-être pour rebondir de façon psychanalytique et rapidement, après j'arrête, Joël, l'enfant peut être un prétexte pour vivre une sexualité bien sûr interdite et censurée. La femme étant enceinte, il peut y avoir une résistance puisque l'enfant est déjà là, indépendamment bien sûr de tous les axes de triangulation que l'on connaît, mais l'enfant est déjà là et donc a priori ça peut être un arrêt, effectivement. Là l'interdit se fait premier. Merci à tous.